La première délibération, c'est Nicolas qui va nous en parler. Elle concerne le projet de labellisation bas carbone sur des projets que la commune envisage de déployer.
Donc, on fera tous, mais effectivement, je vais vous demander d'approuver la demande de labellisation pour deux projets que nous envisageons pour la commune, qui sont le projet d'aménagement des banquets de jour et le projet de création d'un verger. Alors, quelques petites explications. Le label bas carbone, c'est un label qui a été créé par l'État en 2019 et qui s'applique à des projets qui rendent des services écologiques. Et pour lesquels l'État délivre pour chaque projet des crédits carbone et certifie ses impacts permettant de trouver des financements privés d'acteurs qui s'engagent dans l'atténuation, l'adaptation des territoires au changement climatique. Alors, il y a effectivement des évaluations qui sont menées sur les projets. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode ville arborée qui est proposée par la société forestière. Qui permet d'évaluer les projets à l'aide d'une scientifique sur les principaux services écosystémiques, des projets de nature en ville, biodiversité, rafraîchissement urbain, gestion de l'eau, qualité de vie, santé et carbone. Et de mettre en avant l'engagement de la collectivité dans l'adaptation de son territoire au changement climatique. Ça permet aussi de bénéficier de financement de la part d'acteurs économiques qui souhaitent s'engager dans la résilience de leur territoire. Donc ça peut être financé par un ou plusieurs financeurs. À noter qu'il s'agit d'une recette, mais pas d'une subvention, et qui peut couvrir une partie des coûts d'investissement, mais également des coûts de fonctionnement, d'entretien des projets. Alors, pour Saint-Jouan, cette labellisation pourrait permettre de cofinancer des coûts d'investissement et d'entretien des projets en estimant les coûts sur une période de 25 ans. Voilà. La société forestière nous accompagne sur le montage et le dépôt des projets en vue de cette labellisation.
Très bien. Merci Nicolas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet? Oui, Olivier.
Bon, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce que c'était que cette société forestière. Il y a plusieurs intitulés que l'on trouve sur le net, et donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Je trouve que prendre un engagement de 25 ans avec ce genre, c'est énorme. C'est-à-dire que je ne pense pas que dans 25 ans, beaucoup d'entre nous autour de la table seront encore là. Enfin, de ce monde, j'espère. Nous autour de la table, ce n'est pas sûr. Et donc, je ne sais pas, ça fait un peu gadget, ou est-ce que c'est pas simplement quelque chose qui permet de donner bonne conscience à des entreprises qui vont considérer qu'elles participent à l'atténuation de la consommation de carbone? Est-ce qu'on a, par exemple, créé un verger localement? On a toutes les ressources pour être capable de créer un verger correctement. D'abord, ça ne va pas chercher des grosses sommes. Et puis, que ce soit par l'intermédiaire d'associations locales comme les Mordus de la Pomme ou bien dans le PNR et tout ça, on a localement. Alors, quand je vois citer une société, une communauté de communes de Roissy, bon, si c'est pour permettre à Roissy de faire voler davantage d'avions en nous. Alors, j'ai besoin d'explications. Sur le principe, je trouve ça bien, mais je n'ai pas trouvé les explications que j'aurais aimées, ni dans la convention, ni dans le.
Donc, Roissy, Pays de France, c'est une coquille qui a été corrigée. Le projet définitif, c'est Saint-Malo agglomération. Rien à voir avec Roissy, c'est Saint-Malo agglomération.
Ça va mieux, déjà.
Alors. On va voir ça plus qu'une recherche de financement pour des projets, une recherche de financement pour des projets futurs de la commune de Saint-Jean. Il y a pas d'engagement, il n'y a pas de subordination à des entreprises ou des choses comme ça. C'est une recherche de financement qui ne nous engage à strictement rien sur le vote de cette délibération. On ne va pas être pieds et puis on prend lié à quiconque pendant 25 ans, en d'appuyant cette délibération. Et toi, Olivier, qui es si soucieux des deniers publics, tu devrais au contraire être content qu'on cherche tous les moyens possibles de financer des projets Saint-Jean. Et ça ne nous engage à strictement rien.
De répondre sur les deniers publics, c'est très bien d'avoir remarqué, donc je suis content de voir acquis cette réputation-là. Moi, je voudrais être sûr, simplement, que c'est pas quelque chose qui permet de donner bonne conscience à des entreprises qui, par ailleurs, polluent et qui s'agèrent justement des droits à polluer en étant en nous aidant à planter des arbres qu'on est capable de faire nous-mêmes.
Alors, je rappelle que c'est l'État quand même qui est l'interlocuteur direct dans cette démarche-là. Et effectivement, là où on est tous au courant qu'aujourd'hui, les entreprises qui polluent payent et se redistribuent à des projets, qu'ils soient publics ou privés, qui œuvrent pour avoir une démarche bas carbone. Donc, effectivement, on pourrait rêver tous qu'il n'y ait plus d'entreprises qui polluent, mais ça, je pense que là, ça ira bien au-delà des 25 ans. Pour autant, et si aujourd'hui, il n'y a que l'impôt, en fait, hein, d'une certaine manière, qui permet de déployer des projets un peu innovants ou qualitatifs qui sont financés en partie, effectivement, par les entreprises qui polluent. Et ça, on le voit au niveau national, international. Et ces deux heures, on a tous, pour celles et ceux qui ont changé leur chaudière, qui mettent du photovoltaïque, etc., etc., on fait de la rénovation énergétique dans les maisons d'isolation, tout le monde va chercher du C2E et personne ne refuse de bénéficier de qui 300, qui 500, qui 800, voilà. Donc là où on peut être tout à fait d'accord, c'est de déplorer qu'il y ait encore des entreprises qui polluent, mais avec beaucoup d'humilité, je ne pense pas que notre conseil municipal et la prétention de mettre les moyens d'empêcher cette pollution. Donc là, ce qui peut être intéressant, si on peut lever des fonds et de l'accompagnement, c'est alors tu as raison pour les vergers, c'est vrai qu'on les a cités parce qu'on a un intérêt tous autour de la table de faire valoir le patrimoine de la production de pommes sur le territoire. Et on a effectivement, au travers du PNR, j'espère que vous avez été nombreux à aller à la fête du parc ce week-end, parce que c'était vraiment un moment très intéressant. Il y avait plusieurs producteurs de jus de pommes qui étaient présents. Mais c'est surtout autour des arbres de grande qualité qu'on peut remettre dans les entrées de bourse, si on veut éventuellement aller sur des arbres de tiges moyennes ou grandes, bah peut-être que les coûts seront importants et qu'on sera content de trouver les moyens d'une participation, ou alors faudrait attendre qui pousse, et là c'est très très long. Donc voilà, c'est une démarche d'optimisation des moyens qui sont mis à disposition, qu'on mobilise, qui va aussi dans la dynamique qu'on avait initiée il y a quelque temps sur une démarche bas carbone. Si on peut y aller un peu plus avant avec cette démarche-là, on propose de façon privée, mais avec beaucoup d'humilité. Et voilà. Mais tes propos sont tout à fait recevables, mais ça va bien au-delà de la capacité de notre conseil municipal. Oui, Yves.
Oui.
C'est bon.
Voilà. Bon, ben moi je verrai sans doute pas les 25 ans, mais ça ne va pas. Néanmoins, je trouve que c'est intéressant, je dirais, d'avoir une proposition de la sorte. Et puis, comme tu l'as si bien dit, Marie-France, on n'est pas pieds et poings liés non plus. Et si on a un projet et qu'on ne peut pas faire valoir, il n'y a personne de nous dire. Donc on reste de toute façon, pour moi, entièrement libre de décider de notre avenir sur ce genre de contribution. Voilà.
D'autres prises de parole? Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il y a l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, c'est Dominique qui va nous en parler, Dominique Busnouf. Elle concerne le domaine public du Vallion et l'implantation temporaire d'une structure avec le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt.
Bonsoir, donc effectivement, on a deux délibérations en fait, qui se suivent et qui traitent du même sujet, donc pas
c'est un cadre juridique différent. La première délibération, en fait, c'est pour fixer le cadre juridique de la consultation, de l'appel à manifestation d'intérêt. Appel jusqu'à, il y avait eu le précédent appel à projet, on avait appelé appel à projet, il me semble, daté de décembre, une délibération de décembre 2022, c'était pour la période 2023, 2024, 2025. On avait décidé effectivement de choisir un exploitant pour 3 ans. On l'avait déjà fait sur les années précédentes, hein, depuis 2018, mais sur des formats différents. Et cette période arrivant à échéance, puisque la fin de la précédente convention expirait cette année, il convient de choisir un exploitant pour les années à venir. Donc cette première délibération, en fait, elle fixe, donc, comme je disais, le cadre de cette consultation, parce que l'objectif, c'est de rendre public la recherche, la consultation donc, d'une structure temporaire dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour une période qui ira de 2026 à 2030. Donc la période précédente, période, c'était 3 ans, et là, la période suivante qui est proposée est de 5 ans. Et donc, cette première délibération, comme je vous le disais, elle fixe les conditions qui sont les suivantes. Je vais vous les donner dans le détail. Sur le cadre juridique, notamment dans l'espace-temps. L'objectif, c'est de lancer la consultation vous approuvez les délibérations à l'issue de ce conseil municipal. Ensuite, c'est de laisser le temps aux candidats intéressés de remplir un dossier de candidature et de remettre un dossier avec leur projet. Pour ensuite, effectivement, que l'ensemble du projet soit vendu au plus tard le 15 décembre de cette année, pour une prise de décision le 15 janvier, ce qui laisse le temps à l'exploitant revenu d'organiser effectivement la saison à venir. Les dossiers de candidature seront examinés en commission, comme l'a été le projet d'appel à manifestation d'intérêt, et également les candidats sélectionnés seront reçus par des élus de cette même commission. Les critères, en fait, qui nous permettront de retenir le candidat sont les motivations, la connaissance du site et du territoire, le projet d'exploitation avec l'organisation matérielle et opérationnelle, les produits, les services proposés, les horaires, la durée de la saison d'ouverture envisagée, etc. Sachant que dans la délibération suivante, je vais vous donner ce qu'il y a, les conditions d'exploitation qui sont définies dans la convention. Mais là, c'est vraiment la consultation. Donc, les critères sont ceux-là, sont l'expérience professionnelle, la capacité à créer un véritable lieu de convivialité, l'implication et les propositions en matière de respect de l'environnement, en matière d'hygiène et de respect de la réglementation d'occupation du domaine public maritime. Donc, les candidats, les dossiers qui seront déposés seront évalués sur 100 points, notés sur 100 points, avec 25 points qui tiendront au concept, à l'intégration du projet sur le site, au planning prévisionnel d'ouverture, pour 25 points. La qualité et l'origine des matières premières et des produits pour 25 points. Le respect des modalités de prise en compte des exigences environnementales. Les déchets, les eaux usées, les emballages biodégradables, 25 points. Et l'expérience professionnelle et les références pour 25 points. Voilà, ça c'est le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt tel que je vous propose de le voter dans le cadre de cette première délibération. Là, c'est une prise d'acte. Hein.
C'est un appel de publicité.
D'accord. C'est bon, Dominique, là ?
Oui.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ?
Bien, deux petites questions, là. Simplement, pourquoi est passé de 3 ans à 5 ans ? D'une part, et puis, je suis désolé, j'ai pas pu assister à la commission qui a préparé cette délibération. Quand il y aura le rendu des candidatures, donc il y aura une commission, si j'ai bien compris, ouverte à tous les membres de la commission économique.
Oui, tout à fait. D'accord. L'ensemble de la commission
économique. Et ensuite, la décision sera prise par un petit comité ou pendant cette commission-là?
Elle ne sera pas forcément prise par un petit comité. La seule chose, elle ne sera pas prise par un petit comité. La seule chose, c'est que
elle sera. Les candidats seront auditionnés, parce que entre examiner un dossier et après entendre les candidats qui s'expliquent effectivement leur projet, c'est autre chose. Mais recevoir une personne face à 8 membres d'une commission, ça peut être extrêmement un exercice très difficile, très déstabilisant pour un porteur de projet de se retrouver. Donc c'est pour ça que la proposition qui est faite, c'est que ce soit 3 élus de la commission qui reçoivent les porteurs de projet. Pour qu'il y ait pas... Et puis ensuite, voilà, on en échangera ensemble, et puis les décisions seront prises.
Ok, d'autres questions par rapport à cette prise d'acte? C'est bon? Très bien, merci beaucoup. Délibération, alors pour le coup, donc là, on est sur une délibération pour une convention d'occupation temporaire et la fixation de la redevance, toujours pour le domaine public du Vallon, et c'est Dominique qui nous en parle.
Donc là, comme je vous l'expliquais, la convention et la fixation de la redevance, ça s'appuie vraiment les conditions d'exploitation. Je vais peut-être partir déjà sur le fait que on reste. Alors, je vais peut-être partir sur les choses qui changent et les choses qui restent identiques. Nicolas, on peut répéter parce qu'on travaille ensemble. C'est avec la commission, évidemment. Ce qui reste, c'est la période d'ouverture du 1er avril au 15 octobre. Ça, c'est la période d'ouverture globale. Pourquoi jusqu'au 15 octobre? C'est parce que l'exploitation cesse en général avant le 15 octobre, mais on voit bien que l'exploitant peut avoir du temps, besoin de temps pour évacuer le matériel, son installation, etc. Donc, 1er avril, 15 octobre, ça reste inchangé. Ce qui reste inchangé également, c'est le nombre de jours d'heures par semaine, puisque l'exigence, c'est que ce soit minimum 6 jours par semaine pendant la période estivale. Alors, je reprends exactement ce qu'il y a décrit. 6 jours hebdomadaires, dont samedi et dimanche, obligatoires, et 7 jours sur 7, si volonté. Et on donne juste un minimum obligatoire sur la période du 15 avril au 15 septembre. C'est effectivement ce qui est demandé. Voilà, si c'était fermé tout le temps, ou, alors, sauf aléas climatiques, évidemment. Donc ça reste identique. Ce qui reste également identique, c'est l'application des horaires d'ouverture sur un créneau 11h, 22h. Voilà, ça c'est le créneau maximum 11h, 22h. Après, la seule chose qui est demandée dans la convention, c'est que ce soit au moins 7 heures journalières. Plus ça c'est le minimum. Et les 22 heures, comme c'était déjà le cas auparavant, il y a 6 soirées dans la saison du 1er avril au 15 octobre où elle fait une autorisation à 23 heures. Simplement 6 soirées sur toute la saison.
Dont maximum une par semaine.
Dont maximum une par semaine, effectivement. Alors, une par semaine, ce n'est pas les 23 heures, tous les 23 heures, il y en a 6 dans la saison. C'est le nombre d'animations. On a fixé le nombre d'animations dans la saison, animations, concerts, qu'est-ce qui se passe, à maximum 12. Hein. C'était à peu près ce qui existait déjà, mais là, avec maximum une par semaine, une animation ou un concert par semaine. Sachant que c'est pas parce qu'il y a 12 animations qu'il y a 12 fermetures à 23 heures, on est bien d'accord. Il y a 6 fermetures possibles à 23 heures, mais effectivement, dans la saison, 12 animations possibles. La chose qui change par rapport à l'existant, enfin, ce qui existait jusqu'à présent, c'est que on a imposé un début, quand l'animation est un concert, on a imposé un début à 18 heures. Éviter effectivement un démarrage en milieu d'après-midi, comme c'était le cas possible jusqu'à présent et qui s'est déroulé jusqu'à présent. Là, c'est minimum 18 heures. Donc ça change. Et l'autre point qui change, c'était le montant de la redevance.
Il y avait les ventes extérieures aussi, non? Tu l'as mentionné?
Alors, effectivement, c'est-à-dire que dans la convention, il est précisé, je vais trouver le terme exact, que je dois asseoir. Il est précisé, en fait, sur la convention, elle est vraiment un tutu personnel. C'est-à-dire que la convention, elle est signée entre la collectivité et l'exploitant. L'exploitant n'a pas le droit de déléguer le droit d'exploitation qui lui est conféré par cette convention. Il n'a pas le droit de soulever l'espace, il n'a pas le droit de le mettre à disposition à titre gratuit. Et donc, à ce titre-là, effectivement, il ne peut pas accueillir d'autres activités sur le site et sur le domaine public, que ce soit gratuitement ou par rémunération. Et ça, la convention, effectivement, ne le permet pas. Voilà. Je pense que c'était les choses qui changeaient principalement, en dehors effectivement de la contribution. La redevance, merci, la redevance. Alors, la redevance, en fait, pour travailler sur le montant de la redevance, on s'est aussi appuyé sur ce qui se faisait, ce qui se fait sur les communes voisines, puis mon ami voisin, sur les bords de Rance et pas que, aussi sur les bords de mer. Donc, on a fait une sorte de benchmark pour regarder combien, voilà, comment c'était fait, les montants, sur combien de temps, voilà. Et à partir de ça, effectivement, on s'est un peu adossé sur ce qui était fait ailleurs, en prenant toutefois en compte une particularité sur Saint-Jean, c'est que la redevance, elle ne couvre pas l'accès à l'électricité, mais ça, c'est aussi le cas sur d'autres notre commune, elle ne couvre pas l'accès à l'eau potable, puisqu'il y a un sous-compteur qui est installé, qui est relevé, mais surtout, elle ne couvre pas le traitement des eaux usées. Parce que sur tous les autres sites, Cal, Saint-Suliac, La Lyonnais, Douer, en fait, il y a un tout à l'égout sur site, qui parfois, d'ailleurs, a été pris en charge par l'exploitant, c'est arrivé notamment à Cancale sur un site. Et ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'en fait, à Saint-Jean, il y a une cuve enterrée qui, pour le coup, nécessite d'être vidée en saison haute tous les 5 jours. Et donc, à partir du coût de vidange de cette cuve, on est obligé de l'intégrer à la redevance pour pas arriver sur des montants qui sont incroyables. Je peux vous donner le coût du vidange de la cuve sur une saison comme cette année, c'est 7 200 € hors taxe sur la saison. Donc, on a aussi intégré, rapporté ce montant-là sur la durée d'exploitation. Hein, ça revient à peu près à 1 200 € par mois. Voilà. Et c'est ce qui nous a permis de définir la redevance à un montant de 6 600 €. Pour la saison, soit sur 6 mois, enfin, payable du 1er avril au 31 septembre, soit 1 100 €, donc en intégrant effectivement le coût nécessaire au traitement des eaux usées, on arrive sur des loyers qui sont comparables effectivement à ce qui se fait sur les autres communes. Et nous, c'était aussi notre objectif, c'était aussi d'avoir voilà, une sorte d'équité, enfin d'équité entre ce qui se faisait sur les autres communes. Voilà la convention telle qu'elle vous est proposée, notamment la modification sur les montants. Il faut savoir que jusqu'à présent, c'était 500 €, la redevance. Quand on a pris la délibération en 2022, on était à 350 €. Parce que vous vous souvenez, on ne savait pas trop. L'objectif, c'est de voir comment ça s'installe. Et puis, on avait repris une délibération en 2024 où on avait quand même monté un peu le coût. Parce qu'on avait fait aussi, on avait des travaux en cours. Donc, on s'était dit, ben, légitimement, on aménage le site. Et donc, c'est normal un peu que l'exploitant en place aussi participe. Et puis là, on s'est dit, bon, ben, on va maintenant faire en fonction de ce qui se fait aussi ailleurs, qu'il soit traitement, avoir une base de référence. Et c'est ce qui nous a amené effectivement à faire ces choix, à la fois dans les conditions d'exploitation et à la fois dans les coûts de cette exploitation. Voilà, en résumé. Mais je pense que, enfin, là-dessus, je pense que je vous ai tout dit l'important. Donc, je reprends aussi, bien évidemment, hein, surtout les articles dans la convention, les questions de responsabilité, les questions d'environnement, des questions de respect du site, un respect de l'environnement, naturel, mais aussi de l'environnement de l'habitat, et des gens qui habitent, hein, d'avoir effectivement un respect du voisinage, un respect, un strict respect des horaires. Quand on dit de 11h à 22h, c'est pas je sers le verre à 22h, c'est 22h, c'est fermé. Et donc, voilà, principalement les conditions de cette exploitation. Je suis à vous étonnée, ainsi qu'un collègue, pour vos questions.
Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a des prises de parole par rapport à cette convention d'occupation temporaire? Oui, Thomas.
Oui, je reviens sur ce que tu as indiqué sur 12 animations dans la saison. Donc nous, dans le quartier, on en a plutôt recensé 30 sur cette année.
Eh bien, là, la convention précisera, celle qui vient, qu'il n'y aura pas plus de 12 animations dans la saison.
Oui. Après, il y a une question aussi du niveau sonore, au moment où ils font des concerts, qui pour moi sont un petit peu déplacés au niveau par rapport au site. Je pense que faire des concerts de techno et de quasiment une vraie partie sur un site comme ça qui est censé être protégé, je ne pense pas que ce soit trop la place, et le niveau sonore qui est plus du tout tolérable non plus. Je ne sais pas ce qui peut être mis en place et comment ce sera surveillé.
Alors, sur le niveau sonore, effectivement, on en a discuté hein, entre nous, en disant que c'est compliqué de mettre un appareil. On sait aussi que le niveau sonore, il est très différent d'un soir, enfin, il peut être très différent d'un soir à l'autre, puisqu'il y a des vents qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, il y a des moments, effectivement, où on entend davantage. Donc factuellement, de façon très factuelle, c'est quasiment impossible en fait d'avoir un élément de contrôle. C'est pas comme dans les salles intérieures où à partir au-delà d'un certain volume, ça disjoncte. On peut pas faire ça. Alors protection du site, oui, enfin, c'est surtout ce qui est marqué dans la convention. C'est-à-dire après, ça se fait dans le respect du voisinage. Et puis, on n'est pas non plus, je pense qu'il n'y a pas eu 30 concerts de techno dans l'été. Après, j'entends qu'il y a eu un seul concert où ça a été très fort, soit les autres soirs.
On peut comprendre que ce soit
Attendez, s'il vous plaît, ne parlez pas à deux, parce que au niveau de l'écoute, ce n'est pas possible. Alors, qui? Vas-y, Dominique, après demain.
Je disais, effectivement, je peux complètement entendre qu'il suffit même d'une fois et d'un concert, ce soit plus fort que les autres, que ce soit, qu'on ait retenu ça et que ça ait dérangé. Et voilà, ça, je ne me mets pas en question. Après, c'est aussi un lieu public où on essaye de trouver effectivement un compromis entre un lieu de convivialité avec vraiment, en limitant, comment on limite les horaires, c'est l'histoire de 23h, il n'y en a plus que 6. Le début des concerts, on passe à 18h. Donc, on essaye aussi vraiment de participer à travers ce qu'on a écrit au vivre dans le site. Mais pas interdire une typologie de concert, pour le coup, c'est compliqué, quoi. On va pas.
Thomas?
Et à ce moment-là, je t'inviterai à venir, je t'enverrai un petit message, tu viendras. Quand tu es dans ta maison, en plein été, vitre fermée, porte fermée, et que ma fille doit mettre son casque sur les oreilles à chaque fois qu'il y a un concert parce qu'elle ne peut plus dormir, je t'apparai. Et là, on prendra le petit appareil, je suis décidée. Et j'ai déjà évoqué ce sujet cet été, et j'ai eu des messages, des appels, et des mails sans réponse. Donc je t'appellerai l'année prochaine, et tu viendras constater, et je t'apparai. Et je suis désolée. Le niveau sonore, ça se contrôle.
En permanence?
À chaque fois qu'il y a une animation. Chaque fois. Donc, ce sera peut-être plus le cas l'année prochaine avec les nouveaux horaires, etc. Et à chaque fois, c'est plus tolérable. Voilà. peut faire ce genre d'animation sur la place de la mairie, hein, pour délocaliser, pour vous dire tout, du bruit. Sans parler du gène qui se rajoute derrière, les gens qui finissent à 22h, qui montent à 23 à minuit, à 1h du matin, qui viennent des poubelles sur les apports communautaires, ce qui est très bien, qui sont saturés de déchets au bout de deux jours et qui sont vidés au rythme de la SMA. Et du coup, nous, on ne peut plus les utiliser. Voilà, si vous voulez, c'est un ensemble qu'il faut vraiment être plus vigilant sur ce qui peut être mis en place.
Ok, d'autres prises de parole? Ah, pardon,
Non, mais je crois que c'est. Maintenant, le fait est acquis. Moi, si ce n'est pas quelque chose auquel j'étais favorable dans cette forme-là, ça correspond à un public assez étude, mais je crois qu'il faut vraiment redoubler de vigilance pour le respect. Quand un riverain me dit qu'il a pris l'habitude tous les vendredis soirs d'aller dormir chez ses enfants parce qu'il n'arrive plus à dormir au Valion, c'est quand même pas tout à fait normal. Hein? Et j'espère qu'il y aura un peu plus de vigilance sur le cadre en général. Donc là, on a parlé du bruit, on a parlé des horaires. J'ai lu quelque part qu'il ne devait pas y avoir de marche. Non, ben, je ne sais pas faire deux choses à la fois, donc je vais attendre un petit peu. Donc oui, au niveau du stockage, par exemple, pour être allé me promener en vélo de temps en temps par la CTT, il y avait des manquements. C'est-à-dire on trouve des fûts de bière, tout, ben, qui ne cadrent pas. Donc, je ne sais pas qui sera choisi pour la prochaine période, mais je pense qu'il faut là accentuer un petit peu, surtout la première année, pour créer de bonnes habitudes. Je crois que pour le son, il y a moyen de créer des bonnes habitudes. On sait moduler le son quand même pour le rendre supportable, et il n'y a pas besoin, même pour les oreilles des gens qui sont là, c'est pas la peine de leur casser. Et je pense que dans le décor en général, il y a moyen de faire un petit peu mieux pour ne pas avoir de choses qui traînent, de fûts de bière ou de choses comme ça. Donc il faut vraiment repenser clairement que c'est peut-être un atout supplémentaire pour les gens qui ont envie de cet espace de loisir, de convivialité, mais il faut penser bien comme il faut à faire appliquer les règles pour le respect des riverains et puis aussi pour le respect de la nature en général et du cadre de vie. Donc il y avait une petite question que je voulais poser. Est-ce qu'un camion, enfin une benne, comme c'était le cas pour l'instant, c'est considéré comme un food truck? Pour moi, un food truck, c'est un camion, donc là, c'est pas un camion qui déménageait. Est-ce que c'est, dans votre esprit, il y a aussi le droit toujours à ce conteneur? Ou est-ce que ce sera donc un food truck? Et puis, donc, j'aurais envie de dire, est-ce que vous vous engagez à faire en sorte que le futur renouvellement, ce n'est pas mon sujet, fasse bien attention à respecter aussi bien les riverains que la nature en général et l'aspect visuel du site. Voilà, merci.
Nicolas.
Alors, je vais revenir un petit peu sur le bruit. Moi, j'habite pas au Bayon, hein, donc je suis allé à quelques concerts, mais pas tous. Je t'entends complètement, Thomas, sur ce que tu dis. Moi, j'ai travaillé, j'ai conscience que la première année, éventuellement même la deuxième, il y avait peut-être qu'il y a les open air, là, où ça commençait à 15h, ça finissait à 23h, et la musique, elle était forte. On a travaillé avec l'exploitant. Moi, j'ai travaillé, en tout cas, il y a deux ans, et puis il y a un an avec l'exploitant pour travailler. Alors, bon, tu dis que cette année, ça a encore été trop bruyant. Voilà. Moi, j'ai travaillé, j'ai essayé de mettre en place des choses. Bon, si elles n'ont pas donné satisfaction complètement, moi, j'espère que ça a un peu amélioré les choses, même si c'est pas encore satisfaisant. Au sujet de la propreté, moi, je voudrais juste dire que faut peut-être pas non plus mettre tout sur le food truck, sur le ZEF, qui s'appelle le ZEF. Je pense que, en tout cas, l'exploitant, et ça j'en suis certain, faisait très attention à la propreté, et que ce qui est des bacs de guerre qui se retrouvent sur le domaine public, c'est pas forcément de sa faute non plus, et c'est pas elle qui laisse traîner les choses. Les fûts de bière, ils ont été mis, ils ne sont plus apparents maintenant. Il y a un coffrage qui a été fait sur la structure.
culture, et donc ils n'apparaissent plus. Donc il n'y a plus cette, on va dire, cette gêne visuelle, ou cette inesthétisme sur le vallon. Voilà, on travaille, on progresse année après année, on ne peut pas tout solutionner du jour au lendemain. Voilà. J'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux cette année, et puis on continuera à essayer de diminuer cette chaîne sonore et visuelle, si on a encore une.
Et pour répondre à ta question, Olivier, sur l'organisation, le mode, voilà. En fait, il n'y a pas de décision. C'est-à-dire que, je ne sais pas, en fait, sous quel format répondront les personnes intéressées, si ce sera effectivement un food mer, si ce sera un food truck, si ce sera des petites yourtes, si ce sera un grand bus impérial, je ne sais exactement rien. En fait, ça, c'est pas... ça a quand même un peu d'importance visuellement dans l'intégration du sitcom, c'est important. Et le modèle du conteneur, on l'avait fait valider aussi par notre ami,
La
DDTM, notre interlocutrice, la DDTM en charge de tout ce qui est respect du domaine maritime, hein, on avait validé et le modèle, et les couleurs, et l'emplacement. L'emplacement n'était pas prévu là au départ, mais voilà, dans le cadre d'une perspective, que ce soit vraiment le plus caché possible. Donc on a vraiment fait pour que ça s'intègre le mieux dans le site, et l'objectif c'est que ça perdure quel que soit le bâti, enfin le. Oui, le mobilier. Mais sachant, je rappelle aussi que dans la convention, sur les questions de mobilier, il est demandé aussi une certaine sobriété. Il n'y a pas le droit d'avoir du parasol avec de la publicité, des choses comme ça. Ça aussi, c'est réglementé.
Une dernière. Oui. Bon, moi, je redire, je ne suis pas contre le principe, c'est pour ça que tout à l'heure, je m'abstiendrai, parce que je pense qu'il y a des petites choses qui ne sont pas suffisamment précises. Par exemple, sur le fait qu'il n'y ait pas d'autres ventes. Alors, on dit bien que c'est, je ne sais plus où, là, ça dans la convention, le vente de boissons et ainsi de suite, mais ça aurait pu être stipulé quelque part, limite, qu'on ne fait pas d'autres commerces que ça. Quand on y voit des frites le dimanche ou. Voilà, ça, c'est... Ah, moi, j'ai pas compris. Bien sûr, je regrette. Bon, ben, tant mieux, si j'ai mal lu, venez m'excuser, mais je n'ai pas trouvé. Après, il y a quelque chose qui me paraît un petit peu fragile, c'est dans la délibération en tant que telle. Ce qu'on a, c'est la redevance correspondant à la somme de 6 600 euros sur la période d'exploitation. Est-ce que ça ne devrait pas être mis par an, par exemple? La période d'exploitation, ça peut être considéré que c'est les 5 ans pour lesquels est concédé.
Rajouter par an.
Ça me paraîtrait normal que ce soit clair et net, même d'un point de vue comptable. Et pour les gens qui. Les candidats qui vont lire ça. La semaine prochaine, quand ils vont s'intéresser au renouvellement.
Ok. Pour répondre juste à ta question, donc la convention, effectivement, elle s'appelle bien. Ce serait de la convention d'occupation temporaire pour une activité de petite restauration, vente de boissons, glaces, petite restauration sur l'espace du Vallon. Hein, c'est bien précis. Et donc, dans la convention, l'exploitant s'engage à respecter l'activité pour laquelle il a été choisi et au moment de l'audition. Et enfin, il est bien précisé également dans la convention que la présente convention est délivrée à titre personnel. Les bénéficiaires ne pourront céder, ni sous-louer, ni mettre à disposition un titre gratuit leur droit d'exploiter le domaine public sous peine de résiliation immédiate de leur présente convention. Ça va être plus clair. C'est-à-dire que la convention, c'est pour la personne choisie. La personne, elle a été choisie pour une activité, une organisation, etc. etc. Bien évidemment, si on a un dossier avec quelqu'un qui nous dit moi, je suis faire de la vente de glace et de crêpes et je vais vendre des frites, c'est pas l'objet. Donc, elle sera pas retenue. Et si la personne qui est retenue sur les activités qu'on a choisies, il est bien écrit qu'elle n'a pas le droit de mettre l'espace à titre gratuit ou pas gratuit, peu importe, à n'importe qui d'autre qu'à elle-même. Et s'engager sur une activité. Mais là-dessus, sur les régions de France, c'est bien compris.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ah, monsieur Parenté. En fait, je ne vois pas très bien. Et donc, je ne vois pas les mains se lever.
Je voudrais savoir, il y a combien d'habitants dans le secteur du Valion et en gros dans le secteur large du Valion, combien de personnes peuvent être impactées par ces nuisances? Je ne sais pas combien d'habitants en gros dans ça, on ne sait pas il y a combien d'habitants dans ce secteur-là.
C'est de 10.
Combien?
Il y en a une 25, 30 max.
Et donc, dernière question, dans le cadre du fonctionnement d'une bonne démocratie locale, est-ce qu'on est allé les rencontrer pour produire leurs avis, voir un petit peu ce qu'ils... qu'il en pense, qu'il propose pour essayer d'atténuer les nuisances?
Alors, on les rencontre à fil de l'eau, enfin, au cours de la saison en général, on rencontre, on échange sur les choses qui ne vont pas, mais on les rencontre aussi, on a aussi recueilli des avis favorables de gens qui habitent au Valon, qui sont très contents et qui sont même très tristes quand ils voient le foot partir avec la grue en fin de saison. Il y a aussi des habitants du Valion qui nous font part de leur satisfaction de cette activité en bord de plage. Voilà. Là, c'est pas partout, il y a des gens, mais il y a des gens qui sont satisfaits ou qui le sont pas. Et encore, ça, je remets pas non plus en question les raisons pour lesquelles les gens le sont ou le sont pas. Hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, pour répondre à votre question, c'est est-ce qu'on a demandé leur avis? On entend effectivement les avis, comme on entend les avis dans les quartiers quand on fait un feed particulièrement les réunions au sein des quartiers. Là, effectivement, quand on est au Valion et qu'on échange avec les gens, c'est pas tout le temps, on entend, on participe, on écoute. On essaye de mettre en place des choses qui permettent de corriger. Enfin, vous avez tous lu la modification du site, la question des parkings, donc ça a été travaillé avec les services, avec les élus. Pour arriver effectivement à des solutions qui soient acceptables et qui répondent en fait aux attentes des uns et des autres.
D'autres prises de parole? Bien, je vais vous proposer donc d'approuver la convention fixant les modalités d'occupation temporaire du domaine public, de fixer la redevance correspondante à la somme de 6 600 € par an sur la période d'exploitation et d'autoriser la maire ou l'adjointe déléguée à signer l'avenant et tout acte s'y rapportant. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 4. Je vous remercie. C'est bon pour toi, Catherine? Délibération suivante. C'est Philippe qui va nous en parler. Elle concerne le règlement d'utilisation du terrain de foot public avec l'approbation du règlement d'utilisation. C'est Philippe Coutel qui nous en parle.
Merci, bonsoir. Donc, dans notre volonté de réaménager la place Léo Lagrange, vous avez dû donc constater que nous avons déjà réalisé les travaux sur le pump track et que les travaux suivants et qui se sont terminés au début de cet automne, c'était la transformation du terrain, d'un terrain de foot en terrain synthétique. Donc les travaux ont eu lieu au printemps et cet été, se sont terminés début septembre. Et donc on a déjà une utilisation des travaux du terrain par le club sportif. Et pour pouvoir utiliser cet espace sportif, comme dans toutes les utilisations de salles municipales, il nous est important d'avoir un règlement intérieur pour pouvoir utiliser les infrastructures avec une réglementation et des différents articles qui permettent d'avoir toutes les informations nécessaires de respect, d'utilisation. Donc, dans ce règlement intérieur, nous avons plusieurs articles donc destinés à savoir à qui pouvait utiliser les équipements, quelles sont les conditions d'accès, les conditions générales d'utilisation, le respect au niveau de l'utilisation et des différents utilisateurs, donc à savoir le club de foot, les différentes associations qui pourraient l'utiliser, les scolaires. Donc une réglementation un peu classique au niveau de l'utilisation. Je ne vais pas vous faire le listing de toutes les informations au sein de ce règlement. On a un terrain un peu atypique et donc il y a des règles très précises concernant l'utilisation des chaussures, concernant l'utilisation, le respect d'utilisation des terrains de but qui sont mobiles et qui doivent être rangés. Il est mentionné aussi une utilisation de nettoyage, de rangement à la fin de chaque activité. On a aussi une information concernant l'éclairage du stade, les bruits, les nuisances sonores. Ça revient aussi effectivement, une demande de limitation de bruit pour le voisinage, notamment après 22 heures. Et donc une restitution des lieux. De bien mentionner aussi tout signalement concernant les dégradations ou éventuellement les problèmes techniques. Une utilisation aussi, une responsabilité de chaque association ou d'activité. Et donc, il y a un affichage publicitaire qui est interdit autour du terrain. Par contre, il y a un affichage de réglementation qui sera affiché pour bien rappeler toute cette réglementation. Il est bien mentionné aussi que dans le règlement, comme dans tout règlement, il peut y avoir aussi des sanctions et qu'effectivement, dans le cadre de non-respect de l'utilisation du terrain, effectivement, il peut y avoir des exclusions, voire temporaires, voire définitives. C'est une réglementation qui est soumise à tous les utilisateurs. Et les horaires seront respectés en fonction des demandes annuelles des utilisateurs, à savoir, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le club de foot, mais pas que, toutes les associations sportives et les scolaires. Je vous en prie. Alors, les derniers travaux avec la mise en service des buts ont eu lieu mi-septembre et donc la première utilisation a été faite dans la foulée. C'était très attendu et donc ça fait 3 semaines que le terrain est déjà utilisé et je peux vous avouer qu'on n'a que de la satisfaction de la part des utilisateurs.
Je rentrais ce soir, il était plein.
Il était
plein. Comme le pump track, c'est pareil.
Bon, mais en même temps, il pleut pas. Voilà.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie.
Je vous remercie.
Délibération suivante, elle concerne la bibliothèque, la convention de partenariat avec les écoles et les autres partenaires. C'est Mme Cissé qui nous en parle.
Bonsoir. Alors, il s'agit donc de valider une convention qui fixe les modalités d'accueil des scolaires et autres partenaires, qui précise les engagements de la commune et des partenaires conçus. Donc, c'est notamment l'ouverture de la bibliothèque à des horaires dédiés. C'est favoriser l'accès à l'ensemble des ressources. Et ça, c'est ce qui concerne les engagements de la commune. Concernant les engagements des partenaires, c'est le respect des lieux et des documentations mises à disposition pour eux. Voilà ce que je peux vous en dire globalement.
Globalement, ça s'inscrit, Rosane, dans la volonté d'avoir cette bibliothèque la plus largement allumée possible. Alors, quand je dis allumer, on n'est pas obligé de mettre la lumière, c'est pas nécessaire, mais au moins que les portes soient ouvertes et accessibles pour le plus grand nombre, sous réserve effectivement que les écoles et les partenaires s'en emparent pour mettre en place leurs propres animations en lien avec le contenu de la bibliothèque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. C'est encore Rosane qui nous en parle. Elle concerne toujours la bibliothèque dans le cadre du désherbage et de la fixation de tarifs de vente.
Alors, comme chaque année, il va y avoir une vente de livres au profit du Téléthon. Donc, suite au désherbage des livres de la bibliothèque, et il est donc proposé une tarification. Donc, soit 1 euro pour les documents adultes et 50 centimes d'euros pour les documents enfants ou pour 3 revues. Donc la vente aura lieu le 6 décembre prochain dans le cadre du Téléthon. Et l'entièreté des recettes sera versée à la FM Téléthon.
Comme tous les ans.
Comme tous les ans.
Donc, je vous invite à inscrire déjà dans vos agendas le 6 décembre de prévoir quelques menus. Avec ces tarifs-là, c'est plus facile d'avoir un peu d'espèces, hein, sauf si vous voulez en acheter beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais y a-t-il des questions par rapport à cette délibération? Oui, Karine.
Pour savoir le tarif des livres, parce que je vois que c'est juste des documents 1 euro et c'est 50 centimes les documents pour les enfants.
Oui, c'est quoi la question?
Le tarif pour les livres.
Bah, c'est un roman. Un document.
Un document, c'est un livre.
Ah, d'accord, ok.
C'est pas qu'il soit long.
Ouais, par pièce. Ouais. Par document, par pièce.
Très bien. D'autres questions, mais c'est vrai qu'on aurait pu écrire un livre. Revenu. Voilà. Mais je pense qu'il y a un langage particulier dans le monde des bibliothèques.
On va désherbage, les
gars. C'est clair.
Impression de désherbage.
Les jardiniers, c'est fou.
D'autres prises de parole? Yves.
Oui. Moi, je voudrais savoir sur quels critères d'ancienneté sortons les...
Pardon, on désherbe
les documents.
Désherbage tardif.
Voilà, parce que c'est parce que ce sont des ouvrages qui sortent peu, qui sont consultés ou ils sont un peu vieux. Voilà.
Alors, il y a un certain nombre de critères, donc... Ça peut être des documents qui sont établis, donc là ils sont mis au rebut. Et autrement, ce sont des documents qui ne sortent plus donc depuis un certain nombre d'années. Donc on les sort de nos étagères, pour pouvoir les déverber et les mettre à la vente.
Voilà.
Mais souvent, c'est ça chez nous, on désherbe, hein, quand il y a trop de livres. Merci, Rosane. D'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions à l'unanimité? Délibération suivante. Donc, c'est Nicolas Jasselet qui va nous en parler. C'est l'adhésion à la Convention de participation BIS de santé du CDG d'Ille-et-Vilaine.
Donc, je pense que, souvenez, nous avons voté il y a quelques semaines, quelques mois, le principe de proposer une mutuelle santé aux agents de la collectivité, de la mairie. Et donc, on s'est rapproché du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine qui a lancé un appel à concurrence et qui a choisi une mutuelle qui s'appelle, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Mutam et Plus. Et donc, je vais vous proposer d'adhérer à une convention de participation pour le risque santé auprès de cette mutuelle, donc Mutam et Plus, pour une durée de 6 ans. Cela s'accompagne d'une partie. Alors, cette adhésion à la mutuelle, elle est facultative pour les agents. Hein, ils sont libres d'y adhérer ou pas. Et s'ils y adhèrent, il y a une participation financière de la commune d'un montant de
20 euros par mois.
C'est le même principe que sur une entreprise privée, que dans une entreprise privée, effectivement. Voilà.
Une précision complémentaire, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, effectivement, les collectivités sont dans l'obligation de proposer cette participation. Et donc, le minimum était de 15 euros et nous avons délibéré sur 20 euros lorsque nous avons on a été questionnés sur ce sujet. Est-ce que cette délibération appelle des questions? Non? Y a-t-il des oppositions? Les abstentions à l'unanimité, donc mutant et plus. Délibération suivante, donc c'est Aude Poirier qui va nous en parler, c'est sur le champ de l'éducation physique et sportive à l'école, et c'est une convention de co-intervention avec l'Académie Guilhem-Wilhelm. Madame Poirier, nous vous écoutons.
Merci, bonsoir à tous. Donc ce soir, je vous propose d'adopter une convention. Donc, comme je le rappelle, hein, vous le savez, Dominique Sellès est un agent de la collectivité qui intervient sur les écoles de la commune, hein, qui fait environ 25 heures de sport auprès des enfants de la commune depuis maintenant plusieurs années. L'Académie nous a demandé de mettre à jour et de définir une convention qui nous lie en effet avec la définition des rôles de l'intervenante, donc en l'occurrence de Dominique, vis-à-vis des enseignants et aussi des classes des enfants. Donc du coup, cette convention nous a été proposée par l'Académie et donc c'est une convention qui est signée pour une durée d'un an voilà, et qui est renouvelée par tacite reconduction et qui peut être aussi dénoncée à tout moment. Donc ça clarifie tout simplement le rôle de l'intervention de Dominique, en l'occurrence le professeur de l'EPS, auprès des écoles et des enseignants. Donc, je vous propose d'adopter et d'approuver cette convention de co-intervention qui est définie du coup entre nous, collectivité, avec un professeur d'EPS et l'Académie. Voilà. Question.
Alors, est-ce que vous avez... Elle fait ça très bien, hein. Tu as de l'avenir, Aude. Y a-t-il des questions, des prises de parole? Oui, Pascal. Alors, allez ton micro, s'il te plaît. Et après, je vais donner la parole à Madame Poirier. Éteins ton
micro. Laisse un certain temps, Pascal. Et...
Voilà, c'est bien. Alors, la question était de savoir si ça concernait les deux écoles.
Alors, Dominique Céleste intervient sur l'ensemble des écoles, les deux écoles, que ce soit public ou privé. En revanche, dans le cadre de l'école privée, il y a moins d'impositions réglementaires. En l'occurrence, la convention là, il nous est demandé dans le cadre de l'école publique.
Merci Aude.
Et on peut rajouter que c'est juste au niveau de l'école élémentaire. Elle n'intervient pas en maternelle.
D'autres prises de parole? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Ainsi s'achève ce conseil municipal. Je vous remercie de votre présence, de votre participation. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires, chers collègues élus? Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur.
Bonjour. Moi, je suis Jérémy Loup. J'habite au Valion. Et je suis restaurateur. Donc, je connais bien, j'ai un restaurant sur Dinan. Donc, on est assez spécialisé dans les spectacles, les live musiques, etc. Donc, je ne suis pas là pour faire de la propagande ou de la publicité, mais justement, pour apporter un peu des conseils. Que je suis résident du Valion. On s'est déjà rencontré plusieurs fois au Valion. Je suis pas mécontent que le Valion vive, mais j'aimerais bien qu'il vive autrement, j'aimerais qu'il vive de manière plus naturelle et moins bruyante. Que je rejoins totalement Thomas sur le désagrément, même si la plupart du temps, nous, on est un petit peu en rythme de décalage. Alors déjà, juste pour rebondir, j'aimerais bien savoir qui est content au Valion dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans la mesure où, en fait, nous, on se connaît tous, hein, au Valion, il n'y a pas grand monde qui est vraiment content. En fait, le mot content, vous voyez, c'est un petit peu, il y a de l'animation, c'est agréable, etc., mais pas trouvé grand monde en tout cas. Il peut y avoir peut-être une partie, mais pas beaucoup de monde. Vous parliez tout à l'heure des mesures qui avaient été prises en cours d'année, tout à l'heure. Donc,
Monsieur, excusez-moi, oui. l'autorisation de parole publique est succincte en général. Donc, soit vous avez des questions.
J'en ai quelques-unes, Julien.
Non, non, alors, ce n'est pas un débat qu'on va ouvrir, ce sont des questions. Ouais. Donc, et je vous.
Ben, quelles mesures ont été prises, par exemple, j'aimerais savoir. Vous avez parlé de mesures tout à l'heure, mais on n'en a pas eu une seule. Vous disiez cette année, il y a eu des mesures qui ont été prises. On n'a eu aucune mesure.
On a essayé de travailler avec l'exploitant pour effectivement diminuer la gêne sonore pendant les concerts par l'orientation des par le niveau qui était effectivement donné par les amplis, mais également l'orientation des enceintes, etc. Voilà. Après, ça a donné ce que ça a donné. Visiblement, ça ne donne pas satisfaction. J'entends. On va continuer à travailler ça.
Voilà. C'est pas voilà. Parfait. Ouais, ça me va très bien. Après, j'ai une petite question pratique. Vous parliez d'un délai. Est-ce que le délai ne vous semble pas trop court pour quelqu'un qui pourrait être intéressé à postuler, on va dire? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça peut être juste, en 3 mois, d'avoir un accord bancaire, d'avoir un projet, d'avoir un accord chez vous, du moins au 15 janvier, d'avoir un accord bancaire et de préparer toute cette partie-là en logistique, sachant que ça peut prendre beaucoup plus de 3 mois si on part de zéro? Est-ce que vous ne pensez pas que le délai est un peu court?
Alors, jusqu'à présent, effectivement, c'était les délais qu'on avait laissés et on a toujours eu en fait des personnes qui ont répondu, d'ailleurs dans les différents exploitants successifs dans les années passées. En général, sur une activité comme celle-ci, les gens qui répondent, ils ont déjà un peu d'expérience, ils ont déjà ils découvrent pas en disant tiens si je faisais une petite activité au Val-d'Oise l'été prochain, enfin on voit bien que ça s'improvise pas, donc pour autant voilà, nous on n'a pas, enfin 15 janvier ça nous semblait cohérent pour une ouverture le 15 avril.
Moi j'aimerais juste, après je vais pas faire toute la soirée, mais je voudrais juste quelque chose qui serait important à mon sens. Enfin, je vais poser sur la forme d'une question parce que c'est pas un débat. Et la question, c'est pourquoi vous n'imposez pas simplement un volet intégration paysage? Simplement. Il y a plein de guinguettes, il y en a plein, j'en connais énormément, enfin, c'est des amis la plupart. Pourquoi vous n'imposez pas un volet paysager, simplement, avec un râle qui serait imposé, par exemple, un râle végétal, ou simplement un bardage bois? Ça coûte pas grand chose. Ça peut être, si jamais il y a un renouvellement de guinguettes, c'est vraiment pas l'objet du débat de ce soir, on est bien d'accord. Mais en attendant, pourquoi vous n'imposeriez pas, simplement un habillage ou un râle ou une intégration paysagère?
Alors, on n'a pas, nous, on n'impose pas dans la forme et dans l'habitat choisi. La seule chose, c'est une imposition qui est encore bien plus forte, c'est effectivement la validation par le domaine public maritime et les services de l'État en charge de la protection du site, des coloris, etc. Après, demander effectivement pour 4 mois à faire un bardage bois en lame châtaignier vertical, laisser griser naturellement. Nous, on s'immisce. Bon, c'est pas notre sujet. À partir du moment où effectivement ça s'intègre, on a la validation des services du domaine maritime. Voilà, ça s'en tient.
Mais du domaine maritime n'est pas à Saint-Germain. Là, je parle des rivières. Moi, je parle vraiment d'une ambiance générale de la commune. Hein. Moi, je parle vraiment que de la commune. Et c'est pas pour moi uniquement. Je parle vraiment d'un retour qu'on peut entendre. Parce que vous parliez tout à l'heure des retours des gens du Vallon simplement. Il y a beaucoup de gens à Saint-Germain, en temps d'élève, qui trouve que c'est pas très beau, que c'est très bien, je le redis comme je le pense, que c'est très bien d'avoir une guinguette, que moi je suis 100% favorable à ça. Mon Dieu, que ça nous fait la concurrence, nous les restaurateurs, mais c'est très bien en attendant. En attendant, simplement, la ville pourrait pas présenter, c'est pas ça, mais passer au-delà et dire, ce serait pas mal d'intégrer ça. Et le dernier exemple en date, c'est Saint-Jacques-Butamer. Vous avez une guinguette qui est absolument magnifique, et c'est pas un coup extravagant, c'est juste une intégration. Voilà. Donc c'était juste l'objet de ma question. Et la dernière, ça n'a rien à voir, c'est juste, ça n'a rien à voir avec l'objet de la soirée, c'est juste, on parle toujours du Val-d'Oise pour nous. Là, il y a toujours ces plots rouges et blancs qui sont là, le rond-point. Alors, il y aura une réponse, j'imagine, assez facile pour moi. Est-ce que c'est prévu de les enlever ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester de manière assez permanente? C'était normalement les SMR, vous savez, le rond-point dans la descente.
Je vois très bien de quoi vous parlez.
Voilà, et après j'ai fini, je vous promets.
Alors, on pourrait, c'est vrai que vous avez raison de poser cette question parce qu'on pourrait les enlever, ça a été mis pendant la saison pour éviter qu'il y ait du stationnement, je dirais, anarchique qui se mette en place. Donc, faut que je vois avec les services et mes collègues s'il est opportun de les enlever ou pas.
Ou de fixer quelque chose. Hein.
Alors, c'est vrai, c'est pas beau. Là, par contre, l'intégration, c'est pas beau. C'est dégueulasse. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein? Par contre, après, je dirais, dans l'usage, qu'est-ce qui convient? Est-ce que c'est vraiment une gêne? Ou est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de descendre. Et c'est vrai que le fait de se retrouver avec des véhicules stationnés sur la banquette, là où on a mis ce petit rond-point exprès, donc du coup, ça, c'est vrai que ça élargit l'emprise. Mais si on a des voitures qui ont on a des conducteurs qui ont la possibilité de faire stationner leur véhicule à un endroit comme ça, eh ben on sait que ça va créer des gênes. Voilà. Donc moi la question plus, alors après ça sera peut-être à réfléchir plutôt sur la qualité de l'aménagement. Voilà. Comment?
Que sur l'utilité.
Voilà. Est-ce que
alors, c'est vrai que l'utilité peut se poser en période creuse, parce qu'il y a moins de personnes à descendre et dans la période printemps, été, début d'automne. Donc, mais c'est un sujet qui mérite d'être posé. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non? Bah écoutez, je pense ce coup-ci que nous pouvons définitivement nous mettre au revoir et merci de votre présence.
Merci.